voyette de Boulogne-Billancourt en grève.
Romantisme révolutionnaire pour certains, oui. Moi, je suis venu parce que je me sens solidaire de ces gens-là.
Alors, vous parlez assez longuement d'un parmi ceux qui n'a pas renoncé.
Oui.
C'est Guy Hockenheim.
Oui.
Vous citez longuement son bouquin, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Hein.
Oui.
Et c'est un bouquin d'une force et d'une drôlerie en plus, parce que c'est drôle par l'excès même, qu'on peut lire toujours, je veux dire, pour le plaisir, il y a une jubilation, et puis c'est d'une force et d'une violence extraordinaire. Et c'est pas seulement un livre de quelqu'un qui veut être fidèle à sa jeunesse, fut-elle folle, mais qui dénonce ce qu'il faut bien appeler une trahison.
Oui, et le livre est vraiment étonnant parce que on pourrait dire que c'est presque unique à ce moment. Il est sorti en 85, je crois, et il est sorti dans un consensus presque total. Il y avait, et c'est pour ça peut-être la violence du livre, la violence rhétorique du livre, vient peut-être de cette isolation qu'il a ressentie en voyant que la doxa était totale à ce moment. C'était pire qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la France n'avait pas de Reagan ni de Thatcher.
Enfin, on avait Mitterrand, c'est pas mal non plus.
On n'est pas toujours
en retard.
Oui, mais l'Allemagne et la France n'avaient pas de restructuration outre-conservatrice de l'économie pendant les années 80. Mmh. Mais quand même, vous avez raison, c'était une période très philo-américaine.
En introduction à votre bouquin, vous citez Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. On connaît le fameux choix qu'il fallait faire, c'est préférer avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Mais Raymond Aron écrit en 1968, « Je ne connais pas d'épisode de l'histoire de France qui me donne au même degré le sentiment de l'irrationnel. » Donc pour lui, c'est clair, c'est net, c'est un événement irrationnel.
Oui.
Il s'est rien passé, un rêve, un peu rimbaldien, hein, vous parlez de Rimbaud à certains moments. Voilà, bon. Et Sartre, à la même époque, dit, et c'est vous qui le citez, l'important c'est que l'action ait eu lieu, alors que tout le monde la jugeait impensable. Si elle a eu lieu, cette fois-ci, elle peut se reproduire. Ça, c'est quand même encourageant. Ça rouvre, c'est une petite phrase, une petite clé qui rouvre le champ du possible.
Oui, je voulais mettre ces deux phrases ensemble parce que dans la phrase d'Aron, on voit la panique un peu, la panique de l'élite. Et dans la phrase de Sartre, on voit, c'est d'après la phrase de Sartre que j'ai fait la décision de terminer mon livre avec les grèves de 95. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison de revenir à l'ouverture qui était mai. Si on ne sait pas de faire le lien avec les ouvertures du 21e siècle, on a l'intérêt, surtout dans le présent, sur le présent.
C'est-à-dire, voilà, ça c'est les vies, ce que vous appelez les vies ultérieures.
Oui.
Il n'y a pas seulement mai 68 et puis voilà, qui commence le début mai, qui finit fin mai. Il y a évidemment une suite et ces vies ultérieures, c'est à travers ces commémorations et cette façon de nier, d'effacer peu à peu et de donner raison à Raymond Aron. Et puis, un certain nombre d'événements que vous soulignez, notamment 95, Seattle. Vous parlez assez longuement aussi du Larzac.
Oui.
Et là, vous remettez en perspective ce qui s'est passé sur le Larzac à partir de 71 avec des mouvements paysans précédents qui datent des années 60, notamment le mouvement de Bernard Lambert sur les paysans. Donc vous essayez en permanence de voir une continuité, les vies ultérieures de mai 68, mais aussi les vies antérieures de mai 68.
Oui, je voulais à la fois raconter la façon dont cette histoire officielle s'est établie, ce qui est une histoire des moments où le passé politique de mai devient visible ou devient invisible. C'est ça qui m'intéresse